Lettres étrangères. Sylvain Bourmeau. Aujourd'hui, Colm McCann.
Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette rencontre avec Colm McCann. Colm McCann est né en 1965 en Irlande, où il a grandi avant de quitter cette île pour les États-Unis, où il a habité depuis lors, par une petite parenthèse au Japon. En une vingtaine d'années, un petit peu plus, il a publié 6 romans et 3 recueils de nouvelles qui l'ont entraîné dans des époques différentes, sur des territoires extraordinairement différents. C'est quelqu'un qui, je crois, aime se mettre dans la peau des autres pour écrire. Il en a même fait la cause, en quelque sorte, d'une association qui milite pour le fait de raconter des histoires et d'échanger les histoires qu'on se raconte. Nous aurons l'occasion d'aborder tous ces thèmes ensemble. Et durant cet entretien, nous aurons aussi l'occasion d'entendre 2 extraits de son œuvre. C'est Marianne Denicourt qui lira 2 textes de Colm McCann. Jocelyne Bourbonnière va traduire les propos de Colm en français. Alors je voudrais commencer très très simplement, Colm, par une question qui concerne au fond l'identité. J'ai le sentiment que vous êtes en France perçu comme un écrivain irlandais. Peut-être cela tient-il au fait que la première fois qu'on s'est rencontré, il y a bientôt 20 ans, c'était à New York et que vous me sembliez déjà complètement new-yorkais. Moi, je vous ai toujours perçu plutôt comme un écrivain américain. La réalité ou la vérité se situe au milieu de l'Atlantique ou...
I'm drowning in the middle of the Atlantic.
Ouais, je suis là en train de me noyer en plein milieu de l'Atlantique.
As you say, but nothing is simple, especially simplification. This is possibly the hardest question of all for me.
C'est sans doute la question la plus difficile qu'on m'ait jamais posée.
Where am I from?
D'où est-ce que je viens?
One of my favorite moments was when I was hanging with the novelist John Berger.
C'était quand je discutais avec John Berger.
Right at the start, I have to admit to the fact that we were a little bit drunk.
Et on avait un peu trop bu.
And I said to John, where are you from, man?
Et j'ai dit à John,
and he says,
d'où êtes-vous?
Well, I'm from England, of course.
Et il a dit, je suis d'Angleterre.
And then I said to him, but, oh no, where are you from?
Et right? En fait, il a répété, mais d'où venez-vous
vraiment?
You
know, when you're a little bit drunk, you say, where are you from?
Et il a dit, mais vraiment, d'où venez-vous?
And he said to me the most spectacular thing. He said, I am a citizen of elsewhere.
Et je lui ai dit que j'étais un citoyen d'ailleurs, venu d'ailleurs.
Non. Actually, I'm a patriot of elsewhere.
Je lui ai dit que j'étais un patriote en fait, venu d'ailleurs.
I love this notion that
j'adorais en fait,
you know,
ce
to be a patriot of elsewhere. So I feel like I belong in a couple of different places all at once.
For me, différents en même temps.
I'm Irish first. You put a gun to my head.
Je suis Irish. D'abord irlandais. Si
after
vous
that,
me
I'm a New Yorker.
Un fusil sur la tête, je dirais que je suis irlandais.
I like the idea
après, je dirais que je suis new-yorkais. Et j'aime bien quand Michael Ondaatje parle du fait en fait, il me décrit comme étant vraiment un produit international du monde.
Alors revenons quand même en Irlande, parce que c'est là que tout a commencé. 1965. Naissez en Irlande, dans une famille, si j'ai bien compris, qui est déjà habitée par les livres. Votre père est journaliste, il écrit. Quelle place, et vous aussi d'ailleurs, vous avez commencé par être très jeune en fait, journaliste. Quelle place tient la lecture dans cet univers familial? Est-ce qu'il y a une forme d'évidence à devenir au fond très rapidement journaliste, mais en fait encore plus rapidement écrivain pour vous?
Yeah, books were incredibly important to me. I was the first of my family of 5 to be born in Ireland. The rest were born in England. My father was a professional football player, and he came across and he started as a journalist. I remember him very fondly coming home every day with a bundle of newspapers under one arm and a bundle of books under the other arm.
There were more books than wallpaper in my house. ans, croyez-moi.
J'ai lu Kerouac, j'ai lu plein d'autres auteurs, Ginsberg, et j'ai lu à partir d'un très jeune âge, et j'ai commencé à écrire pour les journaux à 12 ans.
Je faisais des articles sur le foot local.
Aussi,
beaucoup d'auteurs de Dublin venaient à la maison et ils demandaient à mon père un peu d'argent pour aller boire un pot le soir.
Et
mon père leur demandait des articles pour son journal en échange de ses prêts d'argent. Et je me souviens que c'était vraiment un bonheur quand mon père leur donnait 10 livres ou 20 livres pour aller, 10 pounds ou 20 pounds en fait, pour aller boire un pot au pub. Mon père est décédé il y a peu, l'an dernier. Nous étions vraiment très proches et heureusement, il a pu lire tous mes livres. Il aurait bien aimé être romancier, mais il n'a jamais écrit de roman. Il a écrit 37 livres, quand même. Il a écrit des livres sur le foot pour les enfants. Il a écrit des livres sur les roses, sur le théâtre irlandais. Il a écrit des biographies d'Oscar Wilde, entre autres. Et il y avait toujours, en fait, cette atmosphère littéraire à la maison. Et même à Noël, il mettait Dylan Thomas à la, sur la platine et on écoutait l'histoire de Noël au Pays de Galles par Dylan Thomas. Donc on avait des livres partout à la maison.
Et vous vous souvenez de la première fiction que vous avez écrite ?
Well, that's a great question because
c'est une excellente question parce que je me souviens de la première fois où j'ai compris vraiment le pouvoir qu'avait la littérature.
My father had brought me to London,
to watch a football game. Amené avec lui à Londres pour assister à un match de foot et nous sommes rendus à une maison de retraite et il me tenait par la main et nous avions une bouteille de whisky et 200 cigarettes avec nous et nous avons pris l'escalier pour monter dans cette maison de retraite et il m'a annoncé qu'on allait rencontrer mon grand-père. Je n'avais pas encore rencontré mon grand-père. Mon grand-père était un vieil alcoolo qui vivait à Londres et qu'il avait abandonné sa propre famille. Donc nous voilà à la maison de retraite et mon grand-père dit « Mais c'est qui ça ?» Et mon père dit «
C'est
ton fils Sean et ton petit-fils Colum. » Et mon grand-père a dit
«
Un autre foutu mécan. »
When I gave him the whisky,
mais quand je lui ai offert la bouteille de whisky et que mon père lui a offert les cigarettes, en fait, c'est quelque chose de typique chez nous en Irlande. Il m'a installé sur le lit et il a commencé à me raconter des histoires. Lundi d'après, quand je suis rentré à l'école, le prof nous a demandé d'écrire un texte sur la personne qu'on admirait le plus. Et bien, moi, j'ai écrit un texte sur mon grand-père. Et je dois dire que plusieurs années plus tard, je dois dire que je me rends compte que j'écrivais en fait un texte sur mon père. Et c'est la première fois, je pense, que j'ai écrit quelque chose c'est dont je me souviens. Je ne sais pas si c'était de la fiction, vraiment, mais bon, je remets en cause ce terme de fiction. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de distinction entre la fiction et la non-fiction, finalement.
On reviendra sur ces questions que l'on trouve notamment dans les cinq textes qui composent 13 façons de voir le livre qui est traduit cette année en français. Ce dernier volume, Callum McCann. Mais avant cela, est-ce qu'il y a eu un moment un petit peu similaire, mais qui concerne cette fois la lecture et qui vous a donné le sentiment, dans l'enfance, de basculer dans l'univers de la littérature ? Un livre qui aurait été en quelque sorte la porte vers le monde de la littérature ?
Gosh, I mean, everything, just like, I don't know why everything right now.
Comment il se fait que tout ce que j'entends aujourd'hui en ce moment, en fait, ça, on revient à mon père. Il écrivait des livres de foot pour les enfants et il me l'a fait lire, il me l'a fait corriger, relire et tout.
Et
mon prof nous le lisait le vendredi après-midi à l'école si on était gentil en classe.
Et
le gamin qui avait le pupitre à côté du mien, Christopher Harrod, quand le héros marqua un but et il sautait en fait sur le bureau et il se mettait à hurler. Moi, je trouvais que c'était extraordinaire parce que moi, je savais que c'était pas vrai, c'était pas la réalité en fait, c'était une histoire et que mon père créait complètement cette fiction et on voyait de suite la réaction de ce petit garçon qui vraiment s'exclamait d'entendre cette histoire et je trouvais que la langue avait un poids extraordinaire. extraordinaire, un pouvoir extraordinaire de déclencher de telles réactions. Et je pense que c'était la première lecture pour moi qui m'a fait réaliser ce que la littérature pouvait faire, en fait.
Vous avez commencé le journalisme très tôt, vous disiez, 12 ans pour les premiers comptes rendus de matchs de foot, mais plus sérieusement, même après les études universitaires, où vous vous apprêtiez à devenir un journaliste professionnel. Vous étiez très jeune un journaliste professionnel dans les journaux irlandais, mais vous avez décidé de ne pas poursuivre cette carrière et d'aller à la découverte des États-Unis en vélo. Dans votre esprit, quand vous avez pris cette décision, c'était juste l'idée de partir quelques mois, une année, et puis revenir après faire du journalisme en Irlande, ou c'était déjà l'envie de rompre totalement avec cette île, avec cette profession, pour envisager d'autres expériences?
Oui, je suis partie parce que je voulais faire comme Kerouac, en fait.
Et je voulais écrire
un roman.
So I was 21 years old.
Et donc j'avais 21 ans. Je suis arrivée à Cape Cod. J'ai acheté une machine à écrire, un gros rouleau de papier comme Kerouac, et j'ai essayé d'écrire pendant 6 mois. Et rien n'est venu, rien du tout.
Like a foot or two or,
j'avais que 30 cm d'écriture sur mon rouleau de papier.
And the A key were both broken on the typewriter.
Il y avait deux touches de cassé, le E et le A, et donc je ne pouvais même pas relire ce que j'avais écrit. Donc j'ai dû me confronter à moi-même et me poser la question, qui suis-je? Et je me suis demandé si j'allais être capable d'écrire quelque chose. Et je me rends compte que, en fait, j'avais eu le malheur, finalement, d'avoir une enfance heureuse. Donc je n'avais rien à dire, rien à raconter. Et donc j'ai décidé de m'acheter un vélo et j'ai parcouru près de 20 000 km de Boston à la Floride, à la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, c'est extraordinaire. C'est une ville, mais vraiment, c'est la folie. Et je suis descendue jusqu'au Mexique, je suis remontée au Texas, le Colorado, le Canada, et j'ai fini à San Francisco en traversant le pont Golden Gate, mais deux ans plus tard. Et donc là, j'ai compris que j'avais appris quelque chose de la vie. J'ai rencontré plein de gens. Je pourrais vous raconter plein d'histoires. Il y a des fois où j'ai failli être tué. Je suis tombé amoureux plusieurs fois. J'ai fait plein de petits boulots, toutes sortes de petits boulots. J'ai vu plein de choses, des paysages extraordinaires, rencontré des gens fabuleux. Mais j'ai compris une chose, à savoir que tout le monde avait une histoire à raconter. Et là, je dois dire que c'est ce qui m'a vraiment fait m'élargir les horizons, mes propres horizons, et ça m'a transformé véritablement.
Mais
Yeats parle de l'excellence de la difficulté, mais moi je pense que j'ai essayé de faire quelque chose de difficile, vraiment, pour essayer de rendre ma vie plus passionnante, comme Zola dit, de vivre sa vie à voix haute.
Et après ce grand tour des États-Unis, assez rapidement, vous avez pris la décision de partir pour le Japon. Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas? Le fait que ce soit une autre île?
A woman.
C'était une femme.
This is what happens in life. You just get dragged everywhere by women.
C'est la faute aux femmes. Ce sont les femmes qui nous attirent ici et là. Et c'est la meilleure façon, en fait, de vivre. Moi, j'ai rencontré ma femme. Elle voulait étudier le japonais. Et donc, c'était aussi simple que ça.
And it was another form of getting. But it was interesting to me
because et c'était intéressant parce que je trouvais que j'étais différent. Au japonais, on est un gaijin. On est un étranger. Et c'était ma première expérience d'être vraiment étranger. J'étais vraiment étranger au Japon. Et c'est là où j'ai pu commencer à écrire. Personne ne me demandait, j'avais pas de boulot, personne ne me disait que faire. Et donc je me suis assis et j'ai écrit mon premier roman,
qui est Le River d'Exil. En français.
La rivière d'exil, donc.
I wrote a book called, j'ai aussi Song Dogs,
Le chant du coyote en français.
Le chant du coyote, yes, thank you.
Et donc, par la suite, retour à New York. Et comme je le disais en commençant cette émission, j'en ai un souvenir très très vif. C'est là que nous nous sommes rencontrés à l'été 1998 dans le patio extérieur d'un bar new-yorkais quelques mois ou quelques semaines avant que paraisse en français ce deuxième roman, Les Saisons de la Nuit, qui est vraiment un roman dont New York est aussi un personnage. Vous disiez tout à l'heure à propos de votre identité que vous étiez sans doute d'abord irlandais, mais en deuxième, new-yorkais.
I think that's truly the time when I became,
je pense que c'est vraiment d'ailleurs le moment où je suis devenu l'auteur que j'avais envie de devenir. Moi, je suis rentré à New York après le Japon et je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai rencontré un gars chez des amis et il discutait, il parlait et il parlait des SDF qui vivaient dans les tunnels du métro. Je lui ai dit, attends, c'est vrai, il y a des SDF qui vivent dans les tunnels du métro. Oui, il m'a dit, il y a 5-6 000 personnes qui vivent dans le métro.
I went down to the
et donc le lendemain, moi, je suis allé dans le métro et je suis allé voir qui étaient ces gens. J'avais envie de rencontrer ces gens-là. Et c'est la seule fois d'ailleurs de ma vie où c'était un plus pour moi de fumer une cigarette parce que je m'installais là, je fumais une clope et il y avait tous ces SDF qui s'approchaient de moi et qui venaient me parler. Et j'avais des décisions à prendre là. Est-ce que je leur fais confiance ou pas? Ce type, est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pouvoir discuter avec lui? Donc on lui donne une cigarette, on lui allume sa cigarette et on le regarde dans les yeux.
The next year
donc,
and a half,
j'ai passé les 18 mois suivants à faire des recherches sur ce que c'était que de vivre dans le métro de New York. Et ça, c'était une autre expérience extraordinaire. Je rencontrais ces gens, j'écoutais leurs histoires, j'essayais de comprendre d'où ils venaient.
Right.
Et à ce moment-là, je pense que vous avez raison, je suis devenue quelqu'un de New York, New-Yorkais. Et je devais quand même conserver mon identité irlandaise à la fois, parce que moi, je ne faisais pas partie des oppresseurs de ces SDF dans le métro new-yorkais, donc je devais conserver cette part de mon identité irlandaise quelque part.
Ce roman se situe donc en partie au début des années 90, à ce moment où 5000 personnes vivent dans le métro new-yorkais et à la rencontre desquelles vous allez pour documenter ce roman. Mais c'est aussi un roman qui se situe à une autre période historique et toute la force de la forme de ce roman vient du télescopage des périodes que vous avez mis en scène, organisées avec ce livre. Avant d'entendre Marianne Denicourt lire précisément des extraits du deuxième chapitre qui se passe en 1916 et qui est un moment d'anthologie, je trouve, de ce livre, peut-être vous pourriez nous expliquer ce qui vous a conduit à compliquer la tâche du romancier que vous étiez, parce qu'après tout, vous auriez pu faire un roman ou ce qu'on appelle aujourd'hui de la narrative non-fiction à propos de ces gens qui vivent dans le tunnel. Mais non, vous avez choisi d'avoir ce background historique pour faire contraste et écrire Les Saisons de la Nuit.
All stories are full of complications.
Il y a toujours des complications dans une narration, dans une fiction. Et plus c'est compliqué, mieux c'est. Alors, quand je suis allé rencontrer ces gens, je passais du temps avec eux. Et je ne savais pas exactement ce qui allait se passer. Mais un jour, j'étais au milieu d'une galerie en plein centre de New York et j'ai utilisé ma lampe torche et j'ai vu sur un mur en hauteur la date 1916. Et je me suis dit, ah ouais, mais j'y avais pas pensé. Ces galeries, on les a construites il y a très longtemps. Il y a des fois où on ne pense pas au moment où ces galeries avaient été construites et j'ai commencé à faire un peu de recherche et j'ai appris qu'ils avaient été construits à New York par le premier syndicat intégré de New York. Donc ce syndicat était composé d'Irlandais et d'Afro-Américains et ils travaillaient ensemble dans les souterrains de New York et sous la rivière. Et donc là on comprend en fait que ces hommes allaient travailler avec de l'air pressurisé et ils faisaient face vraiment à la mort tous les jours.
Marianne Denicot.
1916. Ils arrivent à l'aube, véritable géographie de chapeau. Champs de silhouettes sombres, tiges en mouvement, tournées vers le quartier des docks. D'abord éparpillés dans les rues de Brooklyn, venus par le tram, le ferryboat et le métro aérien, ils se rejoignent peu à peu pour former un seul flot. Ce sont des hommes rudes, qui fument la cigarette assidûment et marchent à pas pesants en faisant tomber de leurs semelles la boue de la veille. Ils laissent une traînée de gadou derrière eux dans la neige. Des flaques gelées craquent sous leur poids. Le froid s'insinue dans leur corps. Ils fument comme des fous, sachant qu'il pourrait bien ne leur rester que quelques heures à vivre. Ils se dirigent vers l'East River et se rassemblent près de l'entrée du tunnel, battant la semelle sur le pavé afin de se réchauffer. La neige fond à leurs pieds. Quand le coup de sifflet les appelle à leur tâche souterraine, dans l'air sous pression, ils tirent une dernière bouffée. Les cigarettes rougeoient soudain et tombent à terre, une à une, comme des nuées de lucioles qui s'arrêtent en plein vol pour se poser. Dans la file, Nathan Walker regarde les hommes de l'équipe de nuit émerger du tunnel, couverts de boue de la tête aux pieds, éreintés. Il comprend qu'il a devant les yeux ce qu'il attend lui-même, alors il évite de regarder de trop près. Mais de temps en temps, sa main se tend vers un de ces hommes crevés pour lui donner une tape sur l'épaule. L'homme, épuisé, lève la tête, fait un signe et passe son chemin en titubant. Walker s'adresse tout bas à son copain, Con O'Leary. « Alors, mon pote, malade comme un chien, une gueule de bois tout cassée. Moi aussi. Nom de Dieu, qui fait froid. Ouais, pas vrai? Attention, mon gars, on y va. » Le chef de poste leur fait un signe de tête et ils se joignent aux ouvriers rassemblés à l'entrée du puits. Ils restent côte à côte et ils avancent petit à petit. Walker entend la machine à air comprimé gémir sous terre. Un son prolongé, aigu et âpre, qui bientôt dans ses oreilles sera réduit à néant. Le fleuve est un dévoreur de sons. Il les happe, les engloutit. Walker ajuste son chapeau et jette un dernier coup d'œil au loin. Sur l'autre rive, le bureau des douanes et ses trois arches sont gris dans le petit matin. Des dockers s'activent sur les quais. Deux cargos naviguent parmi les glaces flottantes. Et au milieu de l'eau, une jeune femme en manteau rouge vif, debout sur le pont d'un ferryboat, fait de grands signes en agitant les bras. Walker reconnaît Maura O'Leary. Juste avant de disparaître à sa vue, Con, son mari, porte la main à son chapeau en un geste qui pourrait être du rejet ou de l'ennui, mais qui, en fait, est un geste d'amour. Walker sourit à ce spectacle, il baisse la tête et il attaque sa descente sous le fleuve pour une nouvelle journée de terrassement, par un matin si froid qu'il a l'impression d'avoir le cœur gelé contre la paroi de son torse. Dans le sas, la porte est hermétiquement fermée, à l'air comprimé siffle tout autour d'eux. Walker défait le bouton du haut de son pardessus. À présent, dans la chaleur de l'air sous pression, il sent ses orteils se relâcher. Une goutte de sueur perle à son front et il la chasse du pouce. Près de lui, O'Leary est affalé contre la paroi, il respire à fond. Bientôt, Sean Power et Rhubarb Vanucci viennent les rejoindre. L'air devient torride au fur et à mesure que la pression monte, comme si une vague de chaleur s'était avisée de les accompagner sous terre en plein hiver. Ils se pincent le nez tous les quatre jusqu'à ce qu'ils sentent leurs oreilles se déboucher. Au bout de quelques minutes, Power s'accroupit et sort un jeu de cartes de son bleu de travail. Ils cherchent tous des pièces dans leur poche et ils se mettent à jouer au poker. Cependant que leur corps est soumis à une pression de plus de 2 kg au centimètre carré. Walker gagne la première partie et Power donne au jeune noir une tape sur l'épaule. « Dis donc, noireau, tu t'es vu le roi de pique ?» Mais Walker ne le prend pas mal. Il sait qu'ici, sous le fleuve, on est en démocratie. Dans l'obscurité, tout le monde a le sang de la même couleur. Rital, nègre, polac, rouquin irlandais, c'est du pareil au même. Alors il se contente de rire, empoche ce qu'il vient de gagner et fait une deuxième donne. En sortant du sas, sans quitter leur couvre-chef, les ouvriers pénètrent dans l'atmosphère sous pression de la galerie. Ils sont plus d'une centaine à patauger dans la boue, pompeurs d'eau et soudeurs, boiseurs et maçons, grutiers et électriciens. Tous, à la chaleur, ôtent leurs casquettes et leurs pardessus. Certains ont des tatouages, d'autres le ventre ballonné, quelques-uns sont très maigres, la plupart sont musclés. Presque tous sont d'anciens mineurs des mines du Colorado, de Pennsylvanie, du New Jersey, de Pologne, d'Allemagne, d'Angleterre, comme en témoignent les poumons encrassés dont ils ont hérité. Il y eut beaucoup de morts dans le tunnel, mais c'est une loi que ces hommes-là acceptent. Tant qu'on vit, on vit. Et puis, plus rien. Au milieu de la galerie passe une voie ferrée étroite qui, tout à l'heure, va servir à transporter du matériel et la boue déblayée. Les hommes marchent le long des rails et ils lâchent le convoi à des endroits divers. Mais les quatre hommes du front de taille, Walker, O'Leary, Vanucci et Power, ne s'arrêtent pas pour parler. Walker marche en tête, en équilibre sur un des rails métalliques. tandis que les autres font bien attention de poser les pieds sur les traverses de bois, leurs pelles bas contre leurs jambes. Ils vont toujours plus avant, s'enfonçant au cœur des ténèbres. Au fond de la galerie, ils arrivent devant le bouclier Great Head, leur protection ultime, une pièce métallique géante enfoncée dans le lit du fleuve par des vérins hydrauliques. En cas d'accident, le bouclier retient la boue comme un piston dans un cylindre. Mais eux quatre doivent aller encore plus loin. Chacun prend son souffle avant de se baisser pour franchir la porte ménagée dans le bouclier. Ils ont l'impression d'entrer dans une chambre minuscule tout au bout du monde, 7 mètres carrés à peine, où tout est ténèbres, moiteur et danger. À cet endroit, le lit du fleuve est retenu par de longues pales planches et d'énormes vérins. Un toit d'acier s'avance au-dessus de leur tête pour les protéger des chutes de pierres et des coulées de boue. Juste à hauteur des yeux est accrochée une baladeuse qui éclaire des monticules de terre et des flaques d'une eau immonde. Les lumières de l'ampoule palpitent à cause des sautes de tension. Les pieds dans l'eau, Nathan Walker et Con O'Leary tendent la main et touchent les madriers pour se porter chance. « Touche du bois, mon pote, c'est ce que je fais !» dit O'Leary. « Nom de Dieu, ça chauffe même sur les planches !» À la fin de la journée, la boue retenue par les pales planches aura disparu, acheminée en dehors par l'étroite voie ferrée et chargée dans des bennes que des chevaux poussifs tireront jusqu'à une décharge de Brooklyn. Et le bouclier Great Head sera poussé plus loin. En silence, les hommes font intérieurement le pari d'avancer plus vite qu'ils ne l'ont jamais fait dans le lit du fleuve, peut-être même avec de la chance de progresser de plus de 3 mètres. Ils installent une plateforme pour s'y tenir debout. Walker dévisse un vérin et Vannucci enlève 2 pales planches pour ménager une ouverture par laquelle ils vont pouvoir pelleter. Power et O'Leary reculent et s'apprêtent à charger la boue. Au cours de la journée, les 4 hommes permuteront leurs tâches, pelletant et chargeant à tour de rôle, chacun pourfendant le terrain de sa pelle, enfonçant le fer tranchant au plus profond. Des 4, c'est Nathan Walker le meilleur, bien qu'il n'ait que 19 ans. L'abattage est un travail de brute, mais Walker est toujours le premier à se mettre à la tâche et le dernier à s'arrêter. Grand et athlétique, il répercute dans tous les muscles de son bras un simple geste avec sa pelle, il s'immerge dans la sueur. Les autres lui envient son aisance, la façon dont son outil semble faire corps avec son corps, la maîtrise tranquille du mouvement quand il creuse, la lame levée décrivant des ellipses successives, 1, 2, 3, un coup et retour. Il se tient sur la plateforme, les pieds bien écartés, avec son bleu de travail déchiré au genou, et sur la tête de guingois, son chapeau rouge, un cordon cousu après le bord pour pouvoir l'attacher sous le menton. Toutes les 10 secondes, le limon suintant se détache entre les pales planches à la hauteur de ses hanches. En creusant, il exhume des coquillages qu'il frotte dans ses mains afin de les nettoyer. Il voudrait bien trouver un bout d'os, une pointe de flèche, un morceau de bois pétrifié, mais il n'en trouve jamais. Parfois, il croit voir des plantes pousser là, au fond, du jasmin jaune, des magnolias et des buissons d'airelle. Lui reviennent alors à l'esprit, par vagues, les bords de l'Okefenokee, le marais dont les eaux brunes et boueuses donnent sa source à la Suwannee, la rivière de son pays. Walker travaille au creusement du tunnel depuis 2 ans. Il est venu de Georgie par le train, les oreilles transpercées par la stridence aiguë du sifflet à vapeur. Le bouclier d'acier arrive jusqu'au-dessus de la tête, mais très souvent il est obligé d'aller plus loin où il n'y a plus de protection. Aucun des 4 hommes ne porte de casque. À ce point extrême, ils sont seuls face au limon du fleuve. Walker ôte sa chemise et travaille torse nu. Il sait que ses compagnons et lui risquent à tout moment d'être engloutis sous une avalanche de boue et d'eau. Ils risquent de mourir noyés avec l'East River qui leur descend dans la gorge et des poissons étranges et toutes sortes de cailloux dans le ventre. L'eau pourrait les plaquer contre le bouclier pendant que l'alerte est donnée par le tam-tam effréné des outils contre l'acier et qu'à l'arrière, les autres se précipitent en lieu sûr. Ou encore, une fuite d'air pourrait les aspirer contre la paroi, les précipiter à travers l'espace, leur fracasser la colonne vertébrale contre une pale planche. Une pelle pourrait glisser et fendre le crâne de l'un d'entre eux. Le feu pourrait prendre à l'intérieur du tunnel. Il y a aussi la maladie des caissons, ce mal redouté, qui pourrait cribler de bulles d'azote aux genoux, aux épaules et au cerveau. Walker a vu des hommes s'effondrer dans le tunnel en se tenant les articulations, le corps subitement lacéré de douleur. C'est la maladie de ceux qui travaillent sous air comprimé et on ne peut rien y faire. On transporte les victimes dans le sas, où on leur décompresse le corps aussi progressivement que possible. Mais rien de tout ça n'effraie Walker. Il est bien vivant, et dans la pénombre jaunâtre, il met toute son ardeur à continuer de creuser le fleuve. 2 heures de travail et le tunnel s'est allongé 1 mètre. La boue dégagée a rempli de nombreux wagonnets qui font la navette très régulièrement. Vannucci observe Walker et prend modèle sur lui. L'Italien est grand et filiforme, il a les bras striés de veines bleues, c'est pourquoi les autres l'ont surnommé « rhubarbe ». Il dispose de bien peu de mots anglais pour parler avec les autres, alors c'est par son travail qu'il s'exprime et qu'il a gagné leur estime. Quant à Con O'Leary, il s'essouffle, mais il s'accroche à sa tâche. À sa gauche, Sean Power lèche sa paume ensanglantée car il vient de se couper sur une arête vive du bouclier. Ils font reculer le fleuve. Ils sont heureux. Et puis, à 8h17, alors que Nathan Walker tourne le dos à la paroi, Rhubarbe Vannucci fait sa première tentative de phrase complète en anglais. Il en est à la moitié de son mouvement avec sa pelle, une épaule levée, l'autre baissée. Sans que Walker le voie, un trou minuscule vient d'apparaître dans la paroi, point fragile dans le lit du fleuve. L'air sous pression s'y engouffre en sifflant. Vannucci attrape un sac de foin pour combler la brèche, mais tout autour, la terre part en tourbillon, l'air s'échappe et l'orifice s'élargit. Au début, il est gros comme le poing, puis comme un cœur et comme une tête. L'Italien, impuissant, voit le jeune noir projeté en arrière. Walker ne tient pas au sol. Il glisse vers le trou qui s'agrandit. Il est aspiré à l'intérieur, sa pelle d'abord, puis ses 2 bras tendus, suivis de la tête jusqu'aux épaules. Et là, son corps s'est arrêté et fait bouchon. Le haut du torse est prisonnier du limon, tandis que les jambes sont toujours dans le tunnel. Walker se trouve face à la caillasse et au sable du fleuve. L'air qui s'échappe lui pousse les pieds. Il a les jambes aspirées dans un tourbillon de limon. Vannucci s'approche de la fuite et saisit Walker par les chevilles pour essayer de le tirer vers le bas. Pendant ce temps-là, les 2 autres s'avancent et ils entendent les paroles de l'Italien se répercuter autour d'eux. « Air, foule, camp, merde !» Le cri déchire toute la longueur du tunnel, passant des terrassiers aux monteurs, puis aux maçons et aux pompeurs d'eau. Et il parvient enfin à l'arrière, au responsable de la machine à air comprimé. « Fuite d'air, baissez la pression, diminuez, abbassa la pressione, obnitic sis nieni, la pression, la pressione, diminuez la pression !» Mais le passage d'une langue à l'autre déforme les messages, le fausse, et au lieu de baisser, l'aiguille remonte sur le cadran de la machine. La bouche pleine d'un million d'années de limon du fleuve et sa pelle au-dessus de la tête en une position ascensionnelle, Nathan Walker est coincé dans les ténèbres, les jambes retenues par Rhubarbe Vannucci. Du sable, de la boue, des cailloux dans les yeux, les oreilles, la bouche. Une vase liquide lui remplit la gorge. Il s'arrache le visage en essayant de se débattre. Un caillou lui a lacéré la base du cou. La boue s'imprègne de son sang. Walker est pareil à un bouchon dans le plafond de la galerie. L'air qui s'échappe se faufile autour de lui pendant des secondes qui n'en finissent pas. Et puis, en se tortillant, tout doucement comme un asticot, il fait pivoter sa pelle au-dessus de sa tête pour former une poche d'air et le limon cède vaguement. Vannucci essaye de nouveau de le tirer vers le bas. « Lâche-moi les jambes !» pense Walker en se débattant dans la boue. « Lâche-moi les jambes, bon Dieu !» Il remue encore un peu sa pelle et l'air entre tout autour de lui. Il pousse à peine la tête d'un côté dans la boue et, l'espace d'un instant, il voit le fantôme de sa défunte mère en robe bleue à la gare d'Atlanta, une fleur de tournesol jaune sur le sein qui lui fait au revoir au moment où le train siffle. Il tourne encore sa pelle. Brusquement, l'air s'engouffre et le voilà lâché comme un noyau de cerise que l'on crache. Sans perdre conscience, il s'élève à travers le lit du fleuve. Pour trouver quoi ? Des navires hollandais qui ont sombré il y a des siècles, des carcasses d'animaux, des pointes de flèches, des scalpes sur lesquels les cheveux poussent encore, des hommes avec des blocs de béton accrochés aux pieds, les morts des vaisseaux négriers blanchis jusqu'à l'os. Durant tout ce temps, un coussin d'air protège Walker du poids énorme du teuf, du sable et de la vase. Il est semblable à un embryon à l'abri dans son sac pendant qu'il est projeté à 2 mètres, à 4 mètres à travers le lit du fleuve. La poche d'air frayant la voie dans le limon, le préservant de tout danger. Sa pelle n'est plus dans ses mains, mais elle le suit comme un acolyte. De même que Vannucci, de même que Power, qui a l'air de serrer amoureusement un sac de foin contre sa poitrine. tandis que Vannucci émet un rugissement et qu'ils ont tous l'impression que leurs poumons vont éclater. Et puis il y a de l'eau. Il remonte à la surface du fleuve et peut-être des poissons effarés qui ouvrent des yeux ronds. De cette ascension, Walker ne retiendra que du noir absolu, un noir aqueux, sans aucune sensation de froid tout d'abord, et puis un bouillonnement féroce dans les oreilles, des coups de pilon sur le crâne, les yeux qui gonflent derrière les paupières, le corps brusquement trempé jusqu'aux os, le choc de l'eau, le besoin farouche de respirer, la poitrine qui se soulève, la panique d'être au milieu d'un fleuve noir, la conviction qu'ils vont être noyés, qu'ils vont tous être noyés. Les brochets, les truites, le limon et la caillasse vont élire domicile dans leur ventre boursouflé. Des péniches vont sonder les eaux à la recherche de leurs cadavres. Des coquillages vont se coller sur leurs yeux. Et puis, les trois hommes font irruption à la surface de l'East River. Leurs têtes passent de justesse entre les glaces flottantes. Ils sont éjectés dans l'air, n'ayant sur eux que leur bleu de travail et leur godillot. À présent, ils ont la poitrine qui se contracte et se dilate désespérément. Ils rejettent de l'eau et de la boue par la bouche. Ils prennent de grandes goulées d'oxygène, leur cerveau bat à tout rompre. Des outils les ont suivis au fond du tunnel, des planches tournoient, un vérin hydraulique fait la roue, un sac de foin, un pardessus, un chapeau, une chemise, objets volants des plus inattendus. C'est le matin, il fait jour et ils sont là, portés par un énorme geyser brun, eux, la crasse boueuse et leur matériel souterrain. Il y a des ferryboats sur l'eau, des mouettes curieuses dans les airs, des dockers qui les montrent du doigt ébahis. Les trois mineurs font des sauts périlleux dans l'air au-dessus du fleuve. L'eau les maintient un moment en suspens entre Brooklyn et Manhattan, un moment qui ne quittera jamais leur mémoire. Ils sont sortis des entrailles de la terre, tels des dieux. Le lendemain matin, on peut lire dans les journaux que Nathan Walker a atteint le chaland à la nage et qu'il a été hissé à bord, le visage couvert de sang. Vannucci et Power sont restés accrochés à leur planche flottante jusqu'à l'arrivée des secours. Au milieu de toute une colonne imprimée, à côté d'une interprétation artistique de l'éruption, on lit que Con O'Leary, 34 ans, originaire de Roscommon, Irlande, est porté disparu et présumé mort. Des voisines entrent chez Maura O'Leary, dans son logement du troisième étage. Elle se déploie en couronne dans la salle à manger, silencieuse, en robe noire. Sur une petite table, il y a les fleurs envoyées par Walker, Vannucci et Power. Maura tourne la tête en entendant frapper à la porte. Un homme épais en costume, cravate et chapeau melon, se brosse les épaules pour faire tomber la neige en entrant dans la pièce. Il prie les voisines de sortir. Les femmes attendent que Maura leur fasse signe. Puis elles partent l'une après l'autre en jetant derrière elles des regards méfiants. Elle reste dans l'escalier et tend l'oreille. Avec son large postérieur, l'homme s'assied dans l'unique fauteuil. Il remonte le bas de son pantalon et Maura voit ses chaussures bien cirées, tandis qu'une flaque se forme autour de ses pieds. « William Randall, dit-il, je sais qui vous êtes. Tous mes regrets. Vous voulez une tasse de thé ?» Elle parle comme si elle avait des nœuds dans la gorge. « Non, madame. La bouilloire est sur le feu. Non, merci, madame. » Suit un long silence quand il pense enfin à ôter son chapeau. Après l'éruption, dit Randall, le tunnel a été inondé, les autres ont eu de la chance d'avoir la vie sauve. Il a fallu placer une grande toile au fond, sur le fleuve, déposer une couche d'argile dessus, à partir d'une péniche, et pour que le tunnel retrouve son étanchéité. Nous n'avons pas pu faire autrement, bien entendu, nous vous indemniserons. Eh bien ? Nous vous donnerons assez pour vous et pour l'enfant. Il montre du doigt le ventre renflé de Maura et elle y pose ses mains croisées. On n'a pas eu le temps de chercher le corps de Con, dit-il. On pense qu'il est resté bloqué dans une deuxième éruption. C'est tout ce qu'on peut dire. $100, ça suffira-t-il ? Randall tout saute et taquine les pointes de sa moustache fauve. Il est possible que le corps émerge, auquel cas nous paierons aussi pour l'enterrement. Nous paierons l'enterrement de toute façon. Vous avez prévu des obsèques ? « Eh bien, madame, madame O'Leary, je crois de mon devoir de veiller sur mes ouvriers. »« Ah oui, je l'ai toujours fait. »« Vous pouvez partir maintenant, s'il vous plaît. »« Il y a toujours un espoir. Je vois que vous avez confiance, mais vous pouvez partir. »« Sa pomme d'Adam monte et descend, il s'éponge le front avec un mouchoir, des gouttes de sueur réparaissent aussitôt. Je vous ai dit de partir. Comment ? Partez. Comme vous voudrez, madame. Maura O'Leary passe le doigt sur le bord d'une tasse vide, se maudit d'avoir proposé du thé à Randall. Elle ne prononce pas une parole de plus, elle se contente d'aller jusqu'à la porte et la lui ouvre posément. Elle reste en arrière de l'encadrement. Les voisines reculent pour le laisser passer et elle le regarde descendre pesamment avec son bourrelet de graisse qui tremblote sur la nuque. Les femmes rentrent chez Maura, l'une derrière l'autre, et une demi-douzaine d'accents se fondent en un. Les voisines se tiennent, mains jointes et têtes baissées, trop polies pour s'enquérir de ce qui s'est passé. Maura reste debout auprès d'elle, personne ne veut du fauteuil. Elle écarte une longue mèche de cheveux qui lui cache un œil. Elle apprend à ses voisines que son mari s'est déjà transformé en fossile et certaines se demandent ce que ça veut dire. Mais peu importe. Elles acquiescent d'un signe de tête et gardent le mot en suspens au bord des lèvres. Un fossile.
Merci. Merci Marianne Denicourt. Pour cette lecture du chapitre 2 des Saisons de la nuit, Colm McCann, ce deuxième roman que vous avez publié en 1998. Quel est votre rapport à la recherche, à la documentation quand vous écrivez un roman comme ça? Vous avez passé beaucoup de temps dans les bibliothèques de New York à documenter cette époque.
Yeah, I love research.
Ah oui, j'adore la recherche.
Part of the beauty of being a novelist for me is the notion
l'avantage pour moi d'être romancier, c'est le fait que je peux en fait intégrer une vie complètement différente. Je ne suis pas obligé d'être moi-même. Et quand j'enseigne au Hunter College de New York, tout le monde dit qu'on doit commencer par écrire ce qu'on connaît. Mais moi, ce n'est pas ça que je leur dis. Je leur dis, écrivez sur ce que vous avez envie de découvrir. Écrivez sur ce que vous ne savez pas. Donc moi, j'aime bien, chaque fois que j'écris un roman, il me faut 3 ou 4 ans. 2, 3, 4 ans pour un roman. Et chaque fois que j'écris un roman, j'ai l'impression de réintégrer l'université. Je me lance dans un nouveau sujet. Je pense que c'est Disraeli, le politicien britannique, qui avait dit, si vous voulez découvrir quelque chose sur quelque chose, sur un sujet donné, eh bien, commencez par écrire un livre sur la question.
Alors, quand on regarde les 6 romans que vous avez publiés, et puis les nouvelles aussi, réunies dans des recueils, on s'aperçoit effectivement qu'elles parlent de choses extraordinairement différentes, mais aussi qu'elles se situent à des époques différentes. Quelle relation vous entretenez avec l'histoire? Non pas les histoires que vous racontez, mais l'histoire avec un grand H.
Well, history joins us together in so many ways.
L'histoire nous relie de différentes façons. Mais en tant qu'auteur, je pense que ce qu'on fait, c'est on écrit sur des questions qui nous obsèdent. Moi, j'étais obsédé par ces galeries, et donc il fallait que j'écrive, que je décrive ces galeries. Et après cette obsession, eh bien, je me suis intéressé aux gitans de l'Europe de l'Est, et j'ai écrit aussi sur mes rapports avec l'Irlande. Et j'ai été obsédé aussi par Rudolf Nureyev, le grand danseur russe, afin de me débarrasser de ces diverses obsessions, eh bien, il me faut vraiment apprendre l'histoire de cette question, de ce sujet. Il me faut vraiment aller en profondeur.
Et
moi, je n'aime pas l'idée d'un roman historique. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je trouve que le roman historique, il n'y a pas de mouvement, c'est rigide. Je trouve que quand on parle du passé, il faut qu'on parle en même temps du présent, on ne peut pas faire autrement. Moi, j'essaie de toujours créer ce lien avec le présent dans mes romans. Mais l'histoire, elle vit, et on en a abusé de l'histoire. Je pense que Hegel a dit que l'histoire, en fait, c'est un ramassis de mensonges, et on s'entend tous pour dire que c'est la réalité. Moi, je veux écrire sur des questions dont personne n'a traité avant. Je ne veux pas parler des gens célèbres uniquement. Moi, j'ai envie de parler d'un moment précis et qui va vraiment vous toucher le cœur. Et ce sont ces moments anonymes de la grande histoire qui me passionnent.
Vous disiez tout à l'heure que vous écriviez pour vous glisser dans la peau des autres, pour vivre plusieurs vies. Avec la lecture de ce deuxième chapitre des Saisons de la Nuit, on a fait la rencontre de Nathan Walker, ce personnage. Il y a un autre personnage important dans ce roman qui est Tree Frog. Comment vous construisez ces personnages? De quelle manière vous parvenez à devenir eux, à les habiter intimement, j'ai envie de dire, Colin McCann?
There are questions here. I mean, why should a white middle-class male
be writing about an African-American homeless man living in New York? And I have to confront myself with them. Is it cultural arrogance? Is it gender arrogance? Is it economic arrogance? Économique, une arrogance culturelle, une arrogance autour du fait que je suis un homme. En fait, ce que j'ai envie de raconter, c'est j'ai envie d'être honnête, j'ai envie de vraiment étudier cette question à fond. Et quand j'écris un roman qui est à des milliards de kilomètres de ma propre expérience, eh bien, c'est une façon pour moi de me mettre dans la peau de ce personnage.
Et
à l'intérieur de chacun d'entre nous, de notre ADN, chacun d'entre nous, les gens autour de cette table, nous pouvons, je pense, intégrer cette histoire, nous pouvons nous approprier cette histoire de l'être humain. Et elle consiste en quoi, cette histoire? L'amour, la violence, la passion, la pitié, le sacrifice. Ce sont des émotions que nous partageons tous. Et si je comprends ces émotions, je comprends ces émotions de mes personnages. Et en comprenant ces émotions, eh bien, je peux créer vraiment un roman et je peux créer des personnages. C'est un peu comme une façon de devenir comédien. Par exemple, Johnny Depp qui devient un pirate, endosse ce rôle, et puis dans un autre film, il endosse un autre rôle. On s'approprie ces personnages, et on doit également faire preuve de responsabilité envers ces personnages.
Pour le roman qui a suivi les Saisons de la Nuit, votre troisième roman, entre-temps il y avait eu une collection de nouvelles, vous avez non pas décidé cette fois de créer de toute pièce un personnage, mais vous avez décidé d'investir au fond la vie d'une personne réelle. Et je me souviens avoir été très surpris quand j'ai appris que vous aviez décidé d'écrire un roman qui s'appelait Danseur et qui portait sur la vie de Nureyev. Mais en même temps, c'est pas du tout une biographie que vous avez écrite, Colin McCann.
That wrecked my head too.
I mean, ça m'a vraiment posé problème. Il y a quelques années plus tôt, j'avais dit dans un entretien que si on écrit au sujet d'une personne qui a véritablement vécu, c'est parce qu'on a un manque d'imagination. Et voilà que je me mets à écrire sur quelqu'un qui a vécu, Rudolf Nureyev. Il y avait plusieurs raisons qui ont motivé cette décision. On m'a raconté une histoire vraiment extraordinaire. C'est quelqu'un qui habitait à Dublin qui m'a raconté que son père, quand il entrait à la maison, le frappait tous les soirs. Et un soir, son père est rentré à la maison avec une télé.
Il l'a branché,
c'était en 74, et il y avait la Coupe du Monde.
They got no reception on the television.
Il n'y avait pas de réception sur la télé. On n'y voyait rien. L'écran était noir. Et ce soir-là, le garçon, il s'est vraiment pris une belle raclée. Et le lendemain, il a branché la télé avec une rallonge et l'a installé sur le balcon de son appart. Et la première image qu'il a vue, c'était Rudolf Nureyev qui dansait. Et moi, j'ai trouvé cette anecdote vraiment extraordinaire. Vous savez, c'est quand on a vraiment un moment de grand étonnement. Et je me suis dit, mais comment il se fait qu'un garçon de 9 ans, sur ce balcon, à Dublin, peut vraiment porter ce danseur dans ses bras, puisqu'il avait la télé dans les bras. Et c'est une histoire qui concerne Dublin, d'accord, mais qui concerne également Rudolf Nureyev. Est-ce que je pourrais écrire, donc je me suis dit, est-ce que je pourrais inventer une biographie accidentelle? Et je ne savais pas ce que je faisais. Je suis très fière de ce bouquin, mais je ne savais pas ce que je faisais à l'époque. À l'époque, je me disais, mais je fais quoi là? Je fais quoi? J'avais l'impression d'être un explorateur. J'avais l'impression d'être à côté de mes pompes. Et j'ai exploré toutes sortes d'avenues dans ce bouquin que je ne connaissais pas, y compris les clubs gays de New York dans les années 75. Moi, je ne connaissais pas du tout. En 75, moi, j'étais aussi loin des clubs gays que l'on puisse imaginer. J'étais à l'école à Dublin. Mais pour moi, c'était un moyen d'élargir mes horizons encore une fois. Je suis très étonné d'avoir pris cette tangente dans ma carrière, honnêtement.
Et quel était l'enjeu, au fond, en écrivant cette histoire de Nourieff ? Il vous a fallu un peu de temps pour tester, en quelque sorte, l'envie que vous aviez de passer autant de temps avec Nourieff, c'était pas un domaine, la danse, dont vous étiez particulièrement familier en commençant.
Well, you know what? I knew not a single thing about
je ne connaissais rien du tout à la danse. Vous avez qu'à me regarder et vous comprendrez.
The only place I could dance is on the radio.
Je ne peux danser qu'à la radio, honnêtement.
Had to go to Russia.
Il m'a fallu me rendre en Russie, il a fallu que
ballerinas
j'enquête, que je discute avec des danseurs, des danseuses.
The most et là, obscure detail that you can.
On cherche la magie du plus petit détail possible. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Donc je suis allée au ballet à New York avec ma fille, elle avait 3 ans, et nous avons regardé le lac des cygnes. Nous sommes allés au lac des cygnes. Ah non, c'était plutôt Casse-Noisette. Et
ce moment,
il y a ce moment, à la fin de Casse-Noisette, où il y a la neige, et puis il y a tous les danseurs, c'est trop joli, et ma fille, elle me prend la main et elle me dit, c'est vrai, ce sont des vrais danseurs, papa. Et je trouvais que c'était trop joli, et j'avais trop envie de raconter aux danseurs la réaction de ma fille. Et je suis allée leur dire, et les danseurs, ils m'ont dit, vous savez, ce moment où la neige descend, la tombe sur scène, et bien ça, c'est le moment que l'on déteste le plus. Et je leur ai demandé, mais pourquoi? Ils ont dit, mais parce que cette neige
gets swept up every single night.
Et bien, elle est ramassée tous les soirs et on la remonte chargée de poussière.
Il y a
des crottes de souris qui sont mêlées à la neige, de la poussière, et ça nous tombe sur la tête tous les soirs. C'est un détail tellement extravagant, en fait, que ça rend la situation très réelle. Et moi, je ne savais rien à la danse, je n'y connaissais rien. En connaissant ce détail, je pouvais faire semblant. En fait, je pouvais faire semblant de connaître la danse. Vous savez, c'est une question de fumée, d'écran de fumée. Hein. C'est vraiment une question d'écran de fumée, là.
1974, c'est l'année où cette personne qui vous a raconté l'histoire de son père arrivant avec cette télévision, ce qui vous a mis sur la piste de Nourieff totalement par hasard, c'est aussi l'année où un certain Philippe Petit a entrepris de marcher sur un fil d'une tour à l'autre du World Trade Center. Et là, c'est le point de départ d'un autre roman, et que le vaste monde poursuive sa course folle, c'est son titre français, qui a été reçu, je dirais, comme votre 9-11 novel, comme on dit, votre roman du 11 septembre, puisque vous êtes un certain nombre d'écrivains habitant aux États-Unis à s'être sentis requis, en quelque sorte. Je pense évidemment à Don DeLillo en particulier, qui n'imaginait pas écrire un roman sur le 11 septembre et qui a fini par le faire. Lui-même qui, de façon quasi presciente, avait imaginé que le terrorisme frapperait ce bâtiment-là, précisément dans ce début des années 70. C'était quoi cette envie d'écrire ce roman-là? C'était à la fois les années 70, c'était évidemment la réponse d'écrivain au 11 septembre.
It happened more or less the same week as 9/11. When those towers came down,
c'est arrivé à peu près à ce moment-là quand les tours se sont effondrées. J'ai su qu'il faudrait que j'en parle. Mon beau-père
was in the first tower to be hit,
était dans la première tour. Il a survécu.
Came up to our house, and
et c'est la deuxième tour qui s'est effondrée, la première qui a été heurtée. Et quand il est venu à la maison, ma fille lui a sauté dans les bras et il l'a serré très fort et elle lui a dit, en pleurnichant un petit peu, peu, elle lui a dit, grand-papa est en train de brûler, il est en train de brûler.
I said, no,
et je lui ai dit, non, non, il ne brûle pas, t'inquiète pas, il y a eu un incendie en ville, et bon, c'est pour ça qu'il sent la fumée.
Elle a dit,
non, non, papa, tu ne comprends pas, il est en train de brûler de l'intérieur.
And I was like, ooh, that's out of the mouth of babes.
Ah là là, you know, c'est vraiment une idée de petit, ça.
She didn't mean it, she wasn't conscious of it.
Elle n'en était pas consciente, mais c'est ce qu'elle a dit.
What a metaphor.
Et je me suis dit, mais quelle extraordinaire métaphore, un pays qui brûle de l'intérieur.
Shortly afterwards, I remember reading
et je me souviens peu après, j'ai lu Paul Auster, son essai sur Philippe Petit, qui avait marché entre les deux tours sur un fil de fer. Et je me suis dit que c'était une métaphore extraordinaire pour ce qui s'est passé ce jour-là.
Et
j'ai décidé, après, vraiment un peu plus tard, d'écrire.
Ouais,
c'était tout à fait un roman autour de cet épisode de l'histoire américaine. Et je pense que les auteurs doivent écrire sur ce qui leur font peur. Et moi, je me dis, mais de quel droit, moi, Irlandais, je peux parler de cet événement du 11 septembre.
Et
moi, je me dis, bon, il faut quand même aussi que j'explore tous ces mondes auxquels je suis confronté. Moi, je peux vous dire, je me souviens que ce n'était pas difficile, mais je sais qu'à l'époque, c'était très difficile. J'ai dû vraiment cerner toutes ces voix, une femme sur Park Avenue, une prostituée dans le Bronx, un moine irlandais vivant dans la rue, et toutes ces différentes voix, la symphonie, si vous voulez, de New York. Et c'est ça qui m'intriguait, cette symphonie de la ville de New York. Et la possibilité que je tombe, comme Philippe Petit, que je fasse un faux pas,
était
beaucoup plus fort que moi, je dois dire beaucoup plus courageux, parce que moi, si je fais un faux pas, je tombe dans mon bureau, je ne vais pas me faire mal, mais lui, c'était beaucoup plus dangereux pour lui. Et je pense qu'il faut foncer, on n'a pas le choix, et pour être un bon auteur, il faut être capable de foncer, justement.
Ça veut dire que, à chaque fois que vous entreprenez l'écriture d'un livre, vous aimez, au fond, vous donner un comme un défi, et parfois ça peut prendre la forme d'un défi de forme précisément, c'est-à-dire, je le disais à propos des saisons de la nuit, ne pas juste écrire sur la période contemporaine, mêler l'histoire. Là, s'agissant du 11 septembre, écrire un roman choral, un roman avec une multitude de personnages vus comme en surplomb depuis les tours, qui est aussi un roman de la ville de New York. Nouraïev, c'était encore autre chose. Et puis, on n'a pas parlé de ce roman Zoli sur les Roms, dont vous avez simplement mentionné tout à l'heure l'existence. Et est-ce que cette notion de défi que vous vous donnez à vous-même correspond à l'attitude dans laquelle vous êtes au moment de vous lancer dans un projet?
Yeah, I mean, I like to compete.
Je suis assez compétitif.
That
je pense que les auteurs, en fait, c'est comme des athlètes.
Parce
que de rester assis à un bureau pendant 12 heures, il faut le faire. Hein, ça demande quand même une certaine qualité d'énergie. Et moi, j'adore l'idée d'explorer quelque chose, un monde. Et cette idée que je risque chaque fois l'échec. Laissez-moi être honnête ici. Chaque fois que j'écris un roman, j'échoue parce que ce roman, il n'est jamais aussi bien que ce que j'aurais voulu qu'il soit.
Mais
chaque fois, je me dis que j'embarque dans une nouvelle aventure et peut-être que je survivrai. Mais c'est Beckett qui le dit le mieux.
Try again.
Il dit il faut recommencer sans cesse, il faut échouer et il faut échouer mieux.
Alors le défi, par exemple, ça peut être un défi de forme. Vous avez décidé de publier ensemble des textes qui constituent un volume qui est titré 13 façons de voir et qui paraît cette année dans sa traduction française. Le premier des textes est un long texte qui s'appelle 13 façons de voir. Dans l'édition française, il fait 180 pages. Il aurait pu à lui seul être un roman. Mais non, vous avez décidé de le publier avec derrière 4 autres textes de taille variable. Et donc on a quelque chose qui ne ressemble pas à un recueil de nouvelles, qui ne ressemble pas à un roman, qui est une proposition très originale que vous faites. Je vous propose qu'on en reparle après avoir entendu Marianne Denicourt lire le dernier de ces 5 textes comme s'il y avait des arbres.
Je rentrais de mon service au Wellpub quand j'ai vu Jamie sur le terrain de sport. Le soleil se couchait et les immeubles faisaient des ombres par terre. Jamie avait la petite avec lui, un bambin de 3 ans. Elle avec ses couches, la tétine dans la bouche, un tout petit bout de chou. Il était à cheval, pas le sien, non. Jamie l'a vendu il y a longtemps à un autre gamin de la cité. Celui qu'il avait là était noir et blanc et il se penchait pour brouter les derniers brins d'herbe entre les buttes. Torse nu, Jamie, c'est sûr qu'il faisait maigre. On lui voyait les côtes et celles du cheval aussi, même celles de la petite. Le cheval piochait ce qu'il pouvait et on aurait dit que tous les trois, ils cherchaient de quoi manger. Il n'y a rien de pire qu'un gosse affamé. Elle se collait à son ventre, à Jamie, pendant qu'il regardait au loin. Avec le soleil rouge, tout était rouge aussi. Les tours, la clinique, les carcasses des voitures avec leurs fenêtres vides, jusqu'à la rampe de l'autoroute derrière le terrain. C'est vers là qu'il regardait Jamie. Le chantier n'était pas fini, la nouvelle bretelle s'arrêtait au milieu du ciel, à 10 ou 15 mètres du sol. Jamie faisait partie de l'équipe, mais il s'est fait virer quand on a trouvé de l'héros dans ses poches un jour au boulot. Il s'est plaint au comité de quartier parce qu'il était le seul gars de la cité sur le chantier, mais ils n'ont rien pu faire à cause de la drogue. Ils auraient bien voulu, mais impossible. Ça fait déjà 2 semaines et depuis, il traîne sa tristesse dans le coin. Avec ses grosses chaussures de sécurité, il s'est mis à talonner le cheval. On voyait bien l'empreinte qu'il laissait sur les flancs. Je me suis mise à la place de la pauvre bête, se prendre des coups comme ça. J'étais devant les ascenseurs, chaque fois que les portes s'ouvrent, ça pue, la colle, la peinture et la merde. Sur le point de rentrer et de retrouver les petits, avec mon mari, Tommy les garde depuis les licenciements chez Cadbury. Mais je ne sais pas pourquoi, quelque chose me retenait là, il fallait que je regarde. Jamie pressait son cheval, mais rien à faire. Il a secoué la tête, il a henni et il n'a pas bougé. Jamie faisait la gueule, les dents serrées, ses yeux brillaient drôlement. On aurait dit qu'à part les yeux, son corps avait arrêté de grandir. J'en ai vu des gars comme lui au pub. Tout ce qu'ils ont de vivant, c'est leurs yeux, et des fois, même pas. La petite se cramponnait à lui pendant qu'il bastonnait le cheval, qui a fini par obéir et se tourner vers la bretelle. Alors, Jamie a arrêté. Il regardait le gars qui faisait des heures sup, en hochant la tête comme s'il parlait à son ombre par terre. Ils étaient 4 sur la bretelle, 3 en haut, la clope au bec et un autre en dessous, attaché en rappel à une corde. Il devait vérifier les boulons ou quelque chose, et il était drôlement agile, comme Tarzan dans la jungle, à danser au milieu des arbres, sauf qu'évidemment, des arbres ici, il n'y en a pas, autant chercher des lingots d'or. Le gars se balançait en se poussant par les pieds sur les piliers, et son ombre se balançait partout en dessous. C'était beau de le voir faire, vraiment. Un gars maigre, au teint mat, que j'avais peut-être aperçu au pub, mais enfin, je ne pouvais pas dire, j'étais trop loin pour bien voir sa tête. Il y en a pas mal des types du chantier qui viennent déjeuner au Well, même le soir boire quelques bières. De Dublin pour la plupart, mais aussi des gars de la campagne, et même un ou deux étrangers. Les étrangers, on ne les sert pas, ou alors on les fait attendre, parce qu'il y a toujours des ennuis avec eux. Comme dit Tommy, on a suffisamment de problèmes comme ça pour ne pas les servir en plus, ceux-là. Quand on sait le mal qu'on a déjà avec nos gars ici. Pas Jamie, quand même. Quand il venait au Well, il s'asseyait dans un coin et ça lui arrivait de bouquiner bien tranquille. Il buvait aussi beaucoup d'eau des fois, je crois savoir pourquoi, mais moi, je juge pas. Ça nous a étonnés quand on a su qu'il se shootait au chantier. C'est pas son genre, on n'aurait pas cru, vous voyez, à 17 ans, on aurait dit un bon petit gars. Quand j'ai regardé vers le terrain, encore, le soleil a disparu derrière les tours, les ombres ont poussé par terre et le terrain était noir. Jamie observait toujours le type suspendu à sa corde. Le cheval ne faisait plus la tête, Jamie lui a donné un petit coup avec l'intérieur du talon et il s'est mis en marche. Il est passé entre les buttes et il a longé les carcasses des bagnoles, il a contourné le tas de vieux pneus. Même, il a gentiment envoyé bouler le collet qui essayait de lui mordre les pattes. Ensuite, il a longé la clinique au bout du terrain. Ce qui monte bien, Jamie, même sans selle. Il tenait sa petite fille contre lui pour qu'elle ne remue pas trop, même s'ils n'allaient pas trop vite. Le type se balançait toujours sous la rampe de l'autoroute. J'arrêtais pas de me dire « je le connais celui-là, mais impossible de me rappeler ». Les gens entraient et sortaient de l'ascenseur. Les deux voisins m'ont demandé « qu'est-ce que tu regardes, Marie ?» Je leur ai dit la nouvelle bretelle, comment ça prenait forme là-bas. « Très bien », ils ont dit, et ils m'ont laissé. Ils ont dû penser que j'étais un peu naze, mais non, j'avais pas bu un verre de la journée, même après le service. Je me demandais « mais bon Dieu, Jamie, qu'est-ce que tu fous ?» Il avançait doucement vers la rampe, en rythme, avec le cheval, la petite contre lui, avec ses couches, et peut-être encore la tétine dans la bouche, je voyais plus. Des gamins jouent au foot, pas très loin, et Jamie est passé près des chandails posés par terre pour délimiter les buts. Le cheval en a déplacé un avec son sabot, alors les buts étaient plus grands et un des mômes lui a fait un doigt d'honneur, mais Jamie s'en foutait. Les ombres allaient pas plus loin que là. Il restait juste un tout petit peu de soleil sur le dos de Jamie et sur le cheval. Et c'était pour rire ou quoi ? Mais juste à ce moment-là, le cheval a lâché en chemin une grosse merde bien molle. Jamie arrivait devant le grillage et ils ont mis autour du chantier à cause des vols, mais il est troué de partout et il a posé une main sur le cou du cheval pour bien lui montrer par où passer. Maintenant, il était gentil avec lui, penché sur l'encolure. Il avait la petite contre son ventre. On aurait dit que c'était une seule personne, tous les trois. Et ils sont passés impeccables, pile poil, sans une égratignure. Et là, j'ai vu le couteau. Il l'a sorti de sa poche arrière, un cran d'arrêt avec le bouton. Je l'ai vu, parce qu'il le gardait dans son dos, et quand il a sorti la lame, elle a brillé juste une seconde sur ce qu'il restait de lumière. Merde, je me suis dit. Et je me suis mise à courir à travers le parking jusqu'au terrain de sport vers la bretelle. Je fume mon paquet dans la journée, mais mes jambes avaient à nouveau 15 ans. J'avais la gorge sèche, la poitrine serrée, et les gamins qui jouaient m'ont regardé en disant « Tiens, elle a raté son bus ». Mais moi, c'est mes enfants que je voyais à la place de Jamie. C'est pour ça que je courais. Je voyais Michel, le petit, et Tibi, et Orla aussi. C'était comme si c'était lui. Jamais je pourrais encore courir comme ça, même si j'arrivais trop tard de toute façon. J'étais juste devant la clinique quand il est passé sous la rampe avec le cheval. J'ai voulu crier, mais impossible, j'avais plus d'air dans les poumons. La poitrine me brûlait comme si on m'avait fourré dans la gorge un tisonnier sorti du feu. J'ai dû m'adosser une seconde au mur. Et de là, je voyais bien tout. Jamie est arrivé juste en dessous du mec à la corde. Il lui a dit quelque chose. L'autre a hoché la tête et s'est redressé une seconde pour regarder ses copains en haut sur la rampe. Ils lui ont donné un peu de mou. Il était vraiment doué, hein, tout en se balançant. Il a réussi à sortir un paquet de cigarettes dans sa poche. Il l'a ouvert et il a fait une pirouette pour se mettre comme un ange, juste au-dessus de Jamie. Jamie a tendu le bras pour prendre la clope. Il l'a calé entre les lèvres et peut-être qu'il a dit merci ou quelque chose. L'autre allait se déplacer quand le couteau s'est planté dans son coude. J'ai vu sa tête complètement ébahie. Il a regardé son bras, le temps qui commence à saigner. Ensuite, il a roulé sur lui-même pour essayer de donner un coup de pied, mais Jamie lui a planté la lame dans la jambe. Le bébé a hurlé, le cheval avait peur, un des mecs a crié en haut. C'est là que je me suis rappelé, c'est les Roumains, parce qu'ils criaient dans leur langue. J'ai repensé au jour où on a refusé de les servir au well. Tommy disait qu'ils avaient bien de la chance de se balader dans le coin, même de boire des coups, ces connards qui viennent nous piquer notre job. Il n'avait pas dit un mot, sauf merci, à moi, et ils avaient filé. Mais putain, ce qui gueulait là-haut avec leurs copains qui pissaient le sang. Vraiment bizarre de saigner comme ça dans les airs, comme un jet de peinture dans le ciel, quand les autres le remontaient. Il n'était pas mort, bien sûr, mais il les tirait vers le ciel. J'ai regardé Jamie, il était super calme. Il a fait demi-tour avec le cheval et il est parti tranquillement. Il avait toujours la gamine sous le bras, la cigarette au bec, et il avait lâché le couteau, les yeux pleins de larmes. Adossé au mur, j'ai jeté un coup d'œil vers la cité. Les gens sortaient des couloirs et il y en avait qui regardaient, penchés sur les balcons. Personne disait rien. Il y avait Tommy aussi avec les petits. Il avait l'air de sourire et ça se voyait qu'il était pour Jamie. Et que là-bas, tout seul dans son coin, il lui tapait dans les couilles aux Romains. Il lui cassait la gueule, il lui vidait les poches et il le renvoyait chez lui, chez ses gosses basanés, avec ses côtes cassées et des dents en moins. Et je me suis dit que peut-être moi aussi, ça me plairait de voir ça. J'en ai eu des frissons. Soudain, il faisait très froid. J'ai eu envie de serrer le bambin de Jamie dans mes bras, comme il le serrait lui.
France Culture, Lettres étrangères. Aujourd'hui, Colm McCann.
Merci Marianne Denicourt. Colm, c'est le dernier texte de ce livre étrange par sa forme qui réunit des textes très différents les uns des autres. Comment avoir... Et pourquoi avoir fait le choix de composer un volume comme celui-là ?
Well, you know, this is a story about racism. It's a story about Dublin.
It's a story about the Celtic tiger. It's a story about the way we've changed.
It's also a story about grace and understanding.
Une histoire sur comment nous changeons, sur la grâce, sur la compréhension, sur l'empathie, la compassion, et toutes ces émotions qui vont bien ensemble. Oui, c'est vrai. Toutes ces nouvelles sont très violentes, mais elles contiennent également des notions contradictoires.
Et je pense que l'on comprend
qu'il s'agit de la nature humaine ici.
Moi,
je rigolais avec notre ami Jim Harrison. Nous parlions de cynisme, d'innocence. Et Jim disait tout le temps, je préférerais être trop généreux, trop ouvert, que d'être cynique.
Et
l'on parlait de cynisme avec lui beaucoup.
Sort of agile, optimistic cynicism.
Et si on pouvait être cynique, mais de façon souple et optimiste, moi ça me plaisait beaucoup cette notion de mettre ensemble le cynisme, l'optimisme et une souplesse entre les deux. Et moi je trouve que les cyniques sont beaucoup trop sentimentaux en fait, et j'ai pas envie d'être un cynique sentimental. Et je sais que le monde est sombre, que le monde est dur, et qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce bas monde. Et je pense que le rôle de l'auteur, c'est d'essayer de plonger dans le vif du sujet et de parler du côté sombre du monde et de trouver la lumière. De trouver la lumière dans l'obscurité, et c'est ce que j'essaye de faire.
Dans ce volume, 13 façons de voir, il y a aussi, dans certains des textes, des réflexions que je pourrais qualifier d'épistémologie littéraire. Il y a notamment des notations dans le premier texte, 13 façons de voir, sur le point de vue. Évidemment, c'est un texte qui part de ce constat qu'aujourd'hui, les caméras de surveillance sont partout, qu'elles sont à l'intérieur des appartements, dans les restaurants, mais aussi, évidemment, dans la rue. Et à partir de ce constat, vous proposez une nouvelle qui est aussi un mode de réflexion sur les points de vue, sur les manières de voir. Mais c'est aussi l'occasion pour vous de mettre en parallèle le travail de policiers qui essayent de comprendre comment un meurtre a pu être commis et le travail des poètes. Et vous dites qu'au fond, ces deux manières d'enquêter se ressemblent étrangement.
Oui, j'aime bien l'idée du poète en tant que détective qui enquête sur la nature humaine. Et j'aime bien l'idée aussi du détective qui est finalement un poète qui essaye de trouver un sens au monde, parce que le monde dans lequel ils habitent n'est pas facile. Et donc, de mettre ces deux idées, de confronter ces deux idées, le poète en tant que détective et le détective en tant que poète, et bien ça me plaisait beaucoup. Et dans cette nouvelle, je parle du temps et du passage du temps, et c'est une nouvelle qui traite de la perception également. On nous surveille peut-être en H24, dès l'instant où je me lève le matin et jusqu'à ce que je me couche le soir, mais personne ne peut en fait voir mon imagination, et c'est ça que j'ai envie de protéger. On ne peut pas intégrer en fait une caméra de surveillance dans mon imagination, en fait pas encore. Et ce que je voulais faire, c'était d'enquêter sur cet homme qui marche dans la rue. On a l'impression que c'est bon, on a une impression de cet homme, il est vieux, il traîne les pieds, mais dans sa tête, il y a toute une vie. Il se souvient de sa femme, il se souvient d'être né en Lituanie, il se souvient de passer par l'Irlande, il se souvient qu'il a été juge, et il retrouve son fils à déjeuner. Et en fait, c'est le privilège de la littérature, c'est que l'on peut habiter la peau de quelqu'un d'autre. Et on peut explorer quelque chose que l'on ne connaît pas. Est-ce qu'un peintre peut faire ça? Je pense que c'est vraiment le propre de l'auteur. Un peintre peut créer, mais peut-il explorer un autre personnage depuis l'intérieur? Peut-il explorer le déroulement de sa vie? Est-ce qu'on peut le faire au cinéma? Non. Je trouve que vraiment, c'est le privilège de l'auteur, du romancier, c'est que l'on peut explorer tous ces aspects de la vie d'un personnage.
Il y a un autre texte dans ce volume qui nous fait entrer, pour le coup, à l'intérieur de la conscience de l'écrivain que vous êtes. C'est une situation banale pour vous. Un journal vous commande un texte. Un, une sorte de rituel dans le monde anglo-saxon. On demande souvent aux écrivains d'écrire un conte de Noël ou un conte du Nouvel An. Là, c'est un conte du Nouvel An. Et vous allez passer plusieurs mois à réfléchir, trouver une idée. Et au fond, le texte qu'on lit là, c'est l'histoire en train de s'écrire. Vous mettez en scène votre processus d'écriture. On a affaire à un texte très, très singulier qui nous fait entrer, au fond, dans la fabrique, dans le laboratoire.
Vous savez, il y a une dizaine d'années, j'ai donné un entretien et je me disais, si j'écris un texte de métafiction, eh ben, butez-moi, en fait, traitez-moi comme un vieux cheval et mettez-moi à l'écart et ne me laissez pas revenir. Moi, je détestais l'idée d'écrire un texte de métafiction. Et ben voilà, on me donne cette commande et j'essaie d'écrire une histoire et je trouve rien. Je trouve pas de sujet, je trouve pas d'histoire. Et donc, j'ai décidé d'écrire une histoire sur un auteur qui n'arrive pas à trouver un sujet. Et je me suis étonnée moi-même parce que j'ai bien aimé cette histoire. Cette nouvelle, et je ne l'aurais pas publiée si elle ne me plaisait pas, mais j'avais l'impression d'être une sorte de magicien, un magicien qui explique un tour de magie. C'est pas très intéressant en soi, mais là je me jouais à moi un tour de magie en même temps parce que je créais un personnage et ça m'a vraiment étonné. Ça m'a étonné. En fait, ça m'a réjoui de constater que je pouvais faire quelque chose comme ça. En fait, je ne pense pas que jamais le refaire.
Hein.
Mais je dois dire qu'il ne faut pas faire confiance à un auteur, jamais. Si un auteur dit quelque chose, s'il dit que je ne ferai jamais ceci ou cela, ça veut dire qu'il le fera, en fait.
À la toute fin de ce volume, on apprend quelque chose de glaçant. Vous expliquez à vos lecteurs que vous avez été victime d'une agression en juin 2014, il y a 2 ans, dans le Connecticut, qu'un homme vous a frappé de derrière, après que vous ayez tenté d'aider une femme qui elle-même était agressée dans un premier temps, et après avoir pensé que les choses s'étaient résolues. Une agression sévère qui vous a valu de tomber dans le coma et des fractures multiples, ce qui vous a pourri la vie pendant très longtemps. Et vous renvoyez le lecteur à un texte que je suis allé lire sur votre site internet, qui est la déposition de victime, en quelque sorte, on pourrait le dire comme ça, en français, que vous avez fait devant la justice. Dans quelle mesure cette expérience, qu'on imagine très traumatisante, est liée à ce volume?
C'était vraiment extraordinaire ce qui m'est arrivé parce que j'étais en train d'écrire une nouvelle au sujet d'un homme qui reçoit un coup comme ça malencontreux et il meurt. Et juste après avoir terminé l'histoire, voilà que je me fais attaquer moi. J'ai essayé de venir à l'aide d'une femme qui se faisait battre par son mari. Et sans aucune violence, en fait, je l'ai aidée, la femme. J'ai dit au mec d'arrêter de taper sa femme. Et donc, moi, je trouvais que c'était très bien. J'étais super content, c'était ma BA de la journée, en fait. J'étais super fier de moi. Et je me suis rendu à mon hôtel où j'étais descendu. Là, c'était à New Haven, dans le Connecticut. Et je parlais à mon fils au téléphone, et mon fils habite New York. Et je me réveille 2 heures plus tard. Je voyais une lumière très forte et je me demandais ce qui m'arrivait. En fait, on me faisait un IRM. On m'a vraiment battu. J'avais des os de cassé partout, j'avais le visage en sang, j'avais perdu des dents. Vous savez, ça modifiait ma perception de l'histoire que j'étais en train d'écrire, de la nouvelle que j'étais en train d'écrire. Ce n'est pas modifié la nouvelle, la structure de la nouvelle, mais ça a modifié, moi, ma relation à la nouvelle. Après, bon, j'ai changé des petits trucs, mais pour moi, c'est devenu quelque chose de très personnel.
And then I had to go to court
et j'ai été obligé d'aller au tribunal en fait de faire une déposition
and
d'expliquer ce qui m'était arrivé et le juge voulait mettre
really
le mec en taule pour 2 ans parce que c'était vraiment
said, no,
une terrible attaque et j'ai dit non, moi je ne tiens pas à ce qu'il fasse de la prison pour ça. Je pense qu'il y a une différence entre la justice et la vengeance et je ne souhaitais pas me venger, je souhaitais la justice mais je voulais lui dire je vous pardonne mais je ne vous excuse pas pour ce que vous avez fait et j'espère que vous n'oublierez jamais ce que vous avez fait et j'espère que vous serez hanté pendant le restant de votre vie pour ce que vous avez fait et j'espère que votre femme va bien s'en sortir et j'espère que si vous l'attaquez de nouveau que vous irez en prison. C'est ça que je voulais lui dire.
Et moi,
je me suis rendu compte finalement que oui, je me vengeais parce que je me suis vengé comment ? Avec des mots, avec des paroles. Il a été obligé d'écouter ses paroles au tribunal. Et je trouve que c'est super important qu'on soit capable de raconter notre point de vue, de donner notre point de vue. Et à moins d'être capable de donner notre point de vue, là, on aura des soucis, que ce soit pour un auteur lui-même ou que ce soit pour toute une culture. Si on fait taire les auteurs, alors là, on aura des soucis. Parce que la souffrance, elle vient du silence, justement.
D'où l'importance des histoires, elles sont centrales pour vous, au point que, bien avant cette agression, vous avez lancé une initiative, vous présidez une association qui s'appelle Narrative Fort, et qui insiste sur l'importance des histoires et qui encourage les gens à échanger leurs histoires, ou à échanger leurs points de vue, à se mettre à la place des autres pour raconter l'histoire des autres en particulier. Ça vous donne l'occasion de travailler avec différents types de personnes, évidemment des écrivains professionnels qui vous aident, et vous avez réuni des textes de 75 auteurs dans Être un homme, qui a été traduit parmi les plus intéressants des écrivains internationaux aujourd'hui. Mais ça vous amène aussi à travailler avec des gens qui ne sont pas des écrivains professionnels, que vous encouragez à écrire des histoires.
Yeah, I love being a teacher.
Oui, moi j'adore l'enseignement.
Sort of,
j'adore enseigner. J'adore
like,
encourager les autres à écrire.
Irish actor Gabriel Byrne,
Gabriel Byrne, un acteur irlandais
anthology.
Qui a contribué à cette anthologie qui a été publiée.
There's a lot of writers
savez,
got together and
said. Des auteurs qui se sont réunis, un grand nombre d'auteurs qui se sont réunis et qui se sont dit quel est notre pouvoir ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on s'est dit nous avons le pouvoir de l'empathie. Et comment pouvons-nous apporter ça à l'école ? Comment pouvons-nous intégrer ça à l'enseignement, au système d'éducation ? Et nous avons décidé que l'on essaierait de faire en sorte que les enfants échangent des histoires. Donc nous avons des gamins de l'Afrique du Sud, de l'Irlande, de Connecticut, de Chicago, du Mexique, de Limerick en Irlande. Et en fait, ce que font ces gamins, c'est qu'ils racontent l'histoire de l'autre. Et ce qui arrive, c'est qu'ils élargissent leurs horizons, ils sont capables d'une plus grande compassion à cause de cette idée d'écrire l'histoire de l'autre. Et je pense que le défaut de la politique dans le monde, le grand défaut aux États-Unis, en Irlande, sans doute en France aussi, c'est notre manque de compassion. Nous manquons de compassion, nous n'arrivons pas à nous mettre à la place de l'autre. Nous
ne
comprenons pas comment vit le gamin musulman de l'autre côté de la rue, nous ne comprenons pas ce que c'est que d'être cette vieille dame qui se déplace à travers une galerie marchande qui a oublié ce qu'elle était venue chercher. Et donc nous n'avons pas cette capacité de nous mettre à la place de l'autre. Et si nous apprenons à nous mettre à la place de l'autre, je pense que nous allons repousser nos frontières et nous allons apprendre à élargir nos horizons et à améliorer le monde. C'est ça que je veux faire, en fait. Je voudrais contribuer à une petite amélioration du monde. Et ça, c'est l'optimiste cynique que je suis.
Vous aimez enseigner, dites-vous. Alors, vous le faites dans le cadre de Narrative Fort, dont on vient de parler, mais vous le faites aussi comme professeur de creative writing depuis quelques années dans l'une des formations les plus reconnues aux États-Unis dans ce domaine. Comment approchez-vous le partage des expériences de ce point de vue ?
Well, The thing is, people sometimes ask me,
on me demande
parfois, can you teach writing?
Si je peux enseigner l'écriture. Et moi, je leur dis, dans mes premiers cours, hein, toujours, à chaque fois, je leur dis, moi, je n'ai rien à vous enseigner. Je ne sais pas comment construire un livre, je ne sais pas ce qu'est une métaphore, je ne sais pas comment créer un dialogue. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais je leur dis que je peux leur enseigner en fait la passion, je peux leur enseigner l'énergie, je peux leur enseigner la persévérance. Et je leur donne l'occasion de passer 2 ans à échouer. Et moi, je trouve que c'est la meilleure façon de leur enseigner à écrire, c'est de confronter l'échec. Moi, je peux tellement apprendre, j'apprends tellement avec mes propres étudiants. Et je pense que les meilleurs enseignants sont ceux qui sont ouverts aux autres et qui sont capables d'apprendre de leurs étudiants. Et pour moi, c'est une autre façon d'apprendre le monde qui m'entoure.
Depuis le début de cet entretien, Colin McCann, vous avez cité quelques noms d'autres écrivains qui ont été importants pour vous. Je les ai notés. John Berger, Michael Ondaatje. Vous auriez pu aussi citer Toni Morrison ou E.L. Doctorow, qui a disparu il y a peu de temps. Et puis, il y en a un que vous avez cité tout à l'heure. Nous nous étions rencontrés ensemble pour une conversation croisée à la fin des années 90. Il est mort il y a quelques mois. Et il nous manque vraiment beaucoup. C'était Jim Harrison. J'aimerais que vous lui rendiez hommage pour terminer cette émission, Colin.
Sure. That was a brilliant day, wasn't it?
Ah, c'était une journée extraordinaire, n'est-ce pas?
Très très belle journée.
Yeah. You know, there's an Irish phrase.
Vous savez, en irlandais, on dit.
He's the sort of man who will be missed at his own funeral.
Le type d'homme qui va nous manquer à ses propres funérailles. Et c'est tout à fait comme ça qu'était Jim Harrison.
C'était
un homme extraordinaire, plein d'énergie, plein de passion. Il était plein de vie.
Et
très fier.
Et
il disait que la mort vous enlève plein de choses, mais ne peut pas vous enlever vos histoires.
Jim is right there.
Ça, c'est
in all the
Jim.
Stories about him. Here in Saint-Malo.
Ici à Saint-Malo, je me souviens, les gens me racontent, je me souviens de l'avoir vu danser avec une très belle danseuse brésilienne.
Et
c'est comme ça qu'il était, il aimait la vie.
Wine.
Il aimait le vin, il aimait
he
manger, il aimait raconter des histoires.
He also pushed at the edge of human
mais
nature.
Il aimait aussi explorer les frontières de la nature humaine, il aimait raconter des histoires.
Et
pour lui,
poet,
l'histoire, c'était extrêmement important. C'était un grand poète, un homme extraordinaire, et il me manque.
He was exactly that sort of man
c'était exactement
decided,
ce genre d'homme
qui
pouvait décider, oui, je serai quelqu'un de grand, et je vais vraiment découvrir le monde. Et un de ses poèmes que j'adore, c'était il avait dans les 30 ans et il se demandait s'il allait, en fait, il envisageait de se suicider. À la fin du poème, il dit
«
Non, ça ne m'est pas venu comme une évidence, mais oui, j'ai décidé, en fait, de ne pas me suicider. » Il a décidé de rester à cause des histoires. Et il sera toujours là et vivra à travers ces histoires. C'est extraordinaire. Parce que ses livres existent, et parce que ses livres existent, eh bien, il continuera d'exister parmi nous jusqu'à la fin des temps.
Et ce n'est pas un hasard si vous citez un poème, parce qu'après tout, c'est une chose dont on a peu parlé, mais on a le sentiment, souvent, en vous lisant, que, comme beaucoup de britanniques, j'allais dire, ou d'irlandais, parce que peut-être plus encore en Irlande, la poésie demeure le genre suprême. Donc on voit passer les silhouettes de Seamus Heaney, de Paul Muldoon, dans vos livres, des poètes contemporains qui comptent beaucoup pour vous.
Oui, ils comptent vraiment beaucoup pour moi. Mais laissez-moi dire ceci. J'adore la poésie, mais je ne pense pas que les poètes soient supérieurs aux romanciers. Et vous savez, je ne pense pas que les romanciers soient meilleurs que les journalistes, plus forts que les journalistes ou que les auteurs de pièces de théâtre. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de trouver la meilleure manière d'exprimer quelque chose. Ça peut être dans un journal, mais ça peut être aussi dans un poème ou sur une scène. et ça, c'est le boulot de l'auteur, c'est de trouver comment trouver comment décrire l'instant où l'épine pénètre dans la peau, ou de décrire l'instant où le pain sort du four. C'est une manière de recréer le monde à partir du monde. Je trouve que c'est extraordinaire. Quelqu'un comme Jim Harrison avait ce talent.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci.
Et merci à Jocelyne Bourbonnière pour cette traduction des propos de Colin McCann. Merci Marianne Denicourt pour ces deux lectures des textes de Colin McCann. Et je voulais remercier toute l'équipe de Radio France, Véronique Lesage, Laure Roland, Dandalex, Loïc Duros, Pierre Quintard, Alexandre Martin et à la réalisation Véronique Villa. Merci aussi au festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Vous retrouverez cet entretien et ces lectures samedi sur la grille d'été de France Culture. Merci à tous.